En fait, en étant invité à venir ici, toute une série de, je dirais, d'événements, de situations échelonnées sur plusieurs décennies me sont revenus en mémoire. Et ça m'a donné aussi, je dirais, l'occasion de me demander comment j'avais été arrimé à l'OURMIS, comment effectivement j'avais construit des relations d'interlocution denses et riches, qu'il s'agisse au niveau humain, au niveau théorique. Et je me suis aussi rappelé que de mes premiers contacts en tant qu'étudiant, lorsque j'étais à l'université de Neuchâtel en anthropologie, avec à la fois les théories de l'ethnicité, et avec les ouvrages qui ont été effectivement disposés sur l'état d'hier. Donc je me suis souvenu de mes premières lectures d'ethnie, de pluriel, enfin, etc. J'ai retrouvé quelques articles que j'avais même photocopiés, annotés, enfin bon. Ensuite, ça m'a replongé sur un colloque que j'avais organisé quand j'étais à l'université de La Réunion, auquel j'avais en fait invité Joyce à venir parler. C'est là qu'on s'est finalement qu'on a fait connaissance. Joyce était venue parler des mariages mixtes, et c'était un colloque consacré aux questions de la créolisation culturelle du métissage. Je me suis souvenu aussi d'une discussion qu'on avait eue avec Joyce sur une terrasse de café où on essayait de se demander quel était l'intérêt des ensembles flous pour les théories de l'ethnicité et pour la théorie des frontières ethniques. Je me suis rappelé une autre discussion que j'avais eue cette fois à Nice avec Philippe Poutinia sur la notion de substance culturelle. Est-ce que véritablement, malgré la déconstruction de la culture, peut-on se passer totalement de l'idée de substance, sachant que souvent les personnes que nous interrogeons produisent des raisonnements de sens commun en termes de primordialisme? Donc, faut-il rendre compte de ces peut-on rendre compte de ces raisonnements autrement qu'en supputant l'existence de quelque chose qui ressemblerait au moins à leurs yeux à des contenus transmissibles, etc. Et puis, dernier élément qui m'est revenu en tête, c'était cette fois une discussion avec Michel Auriol sur une discussion que je me souviens assez, comment dire, assez riche, mais finalement, on avait terminé plutôt sur des points d'interrogation sur le lien. En fait, je pourrais dire la préservation d'éléments culturels dans des situations de déterritorialisation. Autrement dit, qu'en est-il de la reformulation, du remodelage, effectivement de la transmission culturelle dans des contextes diasporiques. Et il était justement question, c'était une fois où j'étais venu parler à l'Ourmis, de la situation mauricienne. Alors, comme je n'ai pas beaucoup de temps et comme j'ai déjà pratiquement terminé, je me suis dit quelle astuce que j'ai utilisée pour vous parler de ce terrain que finalement j'ai commencé il y a une trentaine d'années, que je poursuis pratiquement chaque année, où je suis des trajectoires, des personnes, des générations après générations. Des destructions et de reconstructions de temples, des architectes, des prêtres hindous qui sont venus effectivement de Sri Lanka ou du Tamil Nadu pour essayer, comment dire, de remodeler la religion ici dravidienne, là, aryenne, c'est les termes locaux qui sont utilisés. Vous voyez à quel point ils sont déjà ethnicisés. Et là, comme dans les recherches que je fais actuellement, je suis assez intéressé à ce que j'appelle les, je ne sais pas si vous avez appelé ça, mais aux incidents significatifs, à la théorie des incidents critiques, c'est-à-dire les situations fortuites, minuscules, qui tout à coup pourraient être interprétées par nous autres, intéressés par l'ethnométhodologie, par le microscopique, par les catégories minuscules de la pensée, par la pensée courante, par en fait les choses sans importance. Je me suis tout à coup souvenu d'un événement qui m'avait interloqué et que j'ai décidé de vous relater pour vous faire réfléchir à, je dirais, une des postures possibles du lien qui existe dans la tête de mon interlocuteur et qui est peut-être généralisable à des pensées plus collectives dans le contexte mauricien. Alors, l'événement que je vais vous décrire est un événement qui se passe il y a une trentaine d'années. Donc j'enseigne à l'Université de La Réunion et j'enseigne aussi à l'Université de Maurice. Je suis invité chez des amis et nous regardons la télévision. Nous regardons la télévision et ce que nous regardons, c'est une émission dans laquelle on voit Anuruddha Jagnauth, qui est le président donc, de la République mauricienne, qui est invité à l'île de La Réunion, qui débarque et qui se fait accueillir par un certain nombre d'étudiantes mauriciennes qui sont boursières. Donc vous savez que les deux îles sont éloignées d'une vingtaine de kilomètres. On les appelle les deux îles sœurs. Bon. Elles ont des histoires relativement communes, mais quand même différentes. Vous savez que l'une est un département français d'outre-mer, l'autre est une république. Enfin bon. Ce sont deux sociétés créoles, avec des créoles partiellement dans une situation d'intercompréhension, mais je dis bien partiellement. Et cet événement, on est en train de le regarder ensemble, donc débarque Anuruddha Jagnauth et quatre jolies Mauriciennes viennent effectivement, bouquet en main, viennent accueillir le président qui débarque. Parmi lesquelles, Jennifer, la fille de M. Robinson, c'est pas son vrai nom, on va l'appeler Robinson, enfin on est près de, enfin, j'utilise sciemment un patronyme qui a une consonance britannique, donc c'est bien ce type de patronyme qu'ils ont. Donc, et au moment où Jennifer remet un bouquet à Anuruddha Jagnauth, Hugues, le père de cette dernière, se retourne vers moi et me dit « c'est la vraie Mauricienne bon. ». Alors, vous pouvez imaginer que, je dirais, tout ethnographe s'intéressant à des questions d'identité, d'identité individuelle, singulière, collective, à l'oreille qu'il dresse lorsque on qualifie quelqu'un, effectivement, en termes de vérité, et lorsqu'on cherche à dire qu'on aurait affaire à quelque chose qui serait particulièrement, je dirais, l'essence ou, je dirais, la vision authentique de ce que pourrait être l'incarnation d'une identité collective. Bon. Alors évidemment, sur cette base-là, pour vous préciser, alors Jennifer était en fait vêtue, on pourrait le dire, à l'occidental. Elle était accompagnée de trois autres filles, une habillée en churidar, l'autre en sari, la quatrième, dans un habit de soie tel qu'on peut les trouver dans les boutiques chinoises qu'on trouve à l'île Maurice. Les trois avaient également, je dirais, des phénotypes, qui avaient été probablement choisis après un casting. Donc il fallait véritablement qu'au niveau, je dirais, de leur apparence physique extérieure, elles incarnent le paysage humain qu'on retrouve dans les dépliants touristiques mauriciens et que, si vous voulez, qu'on retrouve effectivement dans cette situation microscopique, une sorte de résumé d'un discours pour que l'île Maurice produit sur elle-même. Alors, pour aller un tout petit peu plus loin, plutôt que de répondre moi-même avec mes propres catégories interprétatives, je suis entré en discussion avec mon ami pour lui demander effectivement qu'est-ce qu'il entendait par vraie Mauricienne. Et il m'a produit effectivement tout un discours que j'aimerais essayer de résumer rapidement. Alors, tout d'abord, le premier élément auquel il a fait allusion, qu'il a mobilisé dans son explication, était une explication en termes de présentation de soi. Donc, en termes, comme je le disais tout à l'heure, de phénotype, d'apparence extérieure, d'apparence physique, on pourrait parler d'apparence raciale. Hein. Le terme race ne fait pas peur aux Mauriciens. Et en fait, il m'a dit, j'ai une série de ces phrases, il m'a dit, mais ce qu'il y a de fantastique en elle, c'est qu'elle a tout. C'est la métisse parfaite. Son apparence, alors j'ai une série de ces mots, son apparence incarne la confluence harmonieuse des types physiques différents présents dans le contexte mauricien. Donc un discours, si vous voulez, qui nous parle d'une personne dont, je dirais, cette incarnation produirait quelque chose qui serait une sorte d'addition des filiations. Mais toute cette diversité, en fait, se synthétisant dans un seul corps, deviendrait à la fois nouvelle et indiscernable. Donc avec l'idée que tous les particularismes, toutes les singularités dans cette fusion donneraient lieu à quelque chose d'inédit et dont on ne peut pas retrouver les parties. Deuxième élément de son raisonnement, il m'a parlé de son aisance à incarner une identité nationale moderne, tournée vers l'ouverture, l'ouverture au monde, le futur, mettant en avant l'appartenance nationale, donc l'appartenance nationale au premier plan, et entre parenthèses, les différences ethniques internes. Donc un discours qui collait, si vous voulez, à l'idéologie qualifiée dans le contexte mauricien de mauricianisme, mise en place par des tendances gauchisantes, voire d'extrême gauche, qui n'ont jamais réussi à prendre véritablement le pouvoir, mais qui ont joué un rôle, je dirais, extrêmement important dans toute cette génération de pensée, sous une explication dichotomique qui mettait d'un côté justement ce mauricianisme, hein, et de l'autre côté, son inverse, le communalisme, c'est-à-dire le repli sur des identités particulières, selon lesquelles le seul moyen d'être mauricien ne pouvait se faire que par le biais de traits d'union, vous savez, ces fameux « affinited groups ». Donc, le discours communaliste prétendant qu'on ne peut être que mauricien par le biais d'un autre lien, indo, afro, euro, etc. Alors lui, effectivement, produit un discours de mise en parenthèse, de neutralisation de toutes ces distinctions, qui ferait qu'on transcenderait par un accès direct à la mauricianité toute cette diversité et ses accès, on pourrait dire, médiatisés. Bien. Troisième élément, en fait, mobilisé dans son discours, toujours lié à cette idée synthétique, ayant absorbé et combinant les ressources présentes dans la société mauricienne, en termes de culture. Alors, cette fois, en termes de culture, puisqu'il va commencer à me dire, mais tu vois, ma fille est l'exemple type d'une personne qui a des identités multiples et qui parvient avec beaucoup d'aisance à les déployer en fonction des circonstances. Donc, elle fait tantôt du yoga, elle apprend la danse indienne, elle fait du Bharatanatyam, elle aime le Sega, elle voit volontiers voir des films de Bollywood, et elle aime tantôt cuisiner à l'indienne, tantôt à la chinoise, tantôt etc. etc. Bon, enfin, donc, si vous voulez, toute une série de référents culturels intégrés, semble-t-il, à ses pratiques sociales quotidiennes. Un élément de plus qui lui permettrait d'actualiser selon les circonstances des identités multiples, type de répertoire, renvoyant à ce qu'il appelait la mauricianité. Alors, lorsque j'ai demandé effectivement à Hugues comment lui-même se définissait, il m'a dit, moi je me définis effectivement comme un mauricien et rien de plus. En revanche, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on demande aux autres de définir ou de catégoriser Hugues Johnson, ils ne vont pas le définir comme un mauricien, ils vont le définir comme un créole. Ils vont le définir comme un créole, terme qui désigne à Maurice les métis, hein, et terme qui peut se décliner sous une multitude de métissages possibles et désignables. Alors vous avez le mot créole malbar, créole lascar, créole tamoul, ti créole, Alors, ticréole, chose intéressante, on ne parlera pas d'afro-créole, mais les ticréoles, hein, qui est quand même intéressant, parce qu'alors qu'on parle de créole lascar, les ticréoles désignant effectivement plutôt les descendants d'esclaves. Hein. Et puis, quand on demandera effectivement aux interlocuteurs, mais de quel type de créole s'agit-il, les personnes vont redoubler le terme créole pour vous dire ça, un créole, créole. Redoublement effectivement du terme qui fait que l'adjectif créole renvoie, je dirais, dans la perception locale des membres de cette société, à quelque chose qui est justement la vérité du créole. C'est-à-dire, c'est le pur créole, le créole authentique, c'est-à-dire celui auquel on ne peut justement pas ajouter quelque chose de précis en termes de filiation unique. Donc cette créolité renvoie par définition à la pluralité des filiations et au caractère indicible de celle-ci, incernable, qui justement permettrait de dire que cette absence de lien intermédiaire renverrait tout de suite au taxone nominal ou générique qu'est la mauricianité, si vous voulez. Bon. J'ai combien de temps encore?
Encore 5 minutes.
5 minutes, on va essayer de bien les utiliser. Alors, je vous parlais, donc, le titre de mon exposé n'est pas justifié pour l'instant, dans la mesure où j'aimerais vous dire en quelques mots pourquoi la notion de ficelage me semble particulièrement pertinente pour parler de cette société mauricienne. Et pourquoi, effectivement, le discours de Hugh Johnson est en porte-à-faux par rapport à cette réalité multiculturelle, d'aménagement, si vous voulez, des groupes ethniques, voulu d'en haut, voulu au niveau étatique, voulu au niveau gouvernemental, se manifestant dans pratiquement toutes les institutions sociales, c'est-à-dire qu'il s'agisse de l'attribution, je dirais, des contenus culturels qui ont fait Maurice en termes d'origine ethnoculturelle. On va dire, tiens, ça c'est vraiment quelque chose, cette contribution vient vraiment de telle partie de la société, telle autre contribution. Donc il y a un discours en termes de contribution, et effectivement, les cultures telles qu'elles sont pensées par le système multiculturel mauricien ne sont envisageables qu'en termes d'origine distincte. Et alors qu'il s'agisse des langues, donc un concept qui est très souvent utilisé aussi et qui se retrouve dans l'éducation nationale mauricienne, c'est le concept de langue ancestrale, à savoir que chaque individu au niveau de l'école primaire se doit à un moment donné de choisir une langue optionnelle, facultative, qui lui est offerte. Et comme par magie, les uns et les autres vont choisir effectivement ce qui est censé être leur langue. Donc on dira aux individus, effectivement, tu dois apprendre ta langue. Bien entendu, il y a toute une série de situations, ça se passe comme ça, pas comme ça. Justement, les créoles qui n'ont pas de langue ancestrale et qui vont se balader, si vous voulez, dans les différents cours, en choisissant, en suivant un camarade, s'ils sont plutôt copains avec un Hindi speaking, ils vont aller apprendre un peu de Hindi. S'ils sont plutôt copains avec un Tamoul, ils vont se trouver dans une classe de Tamoul. Donc, ces créoles qui créent finalement de la porosité dans ces frontières, hein, puisque n'ayant pas de langue ancestrale, ils sont obligés, je dirais, de choisir des langues en fonction d'autres critères que leur ancestralité. Le deuxième élément, c'est que, toujours dans le discours officiel qui parle de contribution, un autre terme qui ressort systématiquement de l'aménagement social des cultures ethniques à Maurice, c'est le terme de préservation. Donc il y a vraiment un souci de maintien, de préservation, etc. Souci qui, curieusement, mais ça vous pouvez vous en douter, qui n'est pas véritablement une action tournée vers la préservation, mais plutôt vers la tradition inventée, plutôt vers la reformulation, puisque la plupart en fait, des subsides qui sont alloués consistent, c'est le cas par exemple d'une petite recherche que j'ai faite autour de la communauté tamoule, tous les temples en fait, qui ont été construits entre le 19e et le 20e siècle ont aujourd'hui été rasés, et tous ont été effectivement reconstruits via des entreprises transnationales qui viennent avec des catalogues et qui construisent les mêmes temples à peu près dans toute la diaspora tamoule. Donc vous pouvez, il y a un temple qui est à peu près identique de ce qu'on peut trouver à l'île Maurice à Genève, un autre à Lausanne. Ce sont souvent les mêmes architectes et qui effectivement, catalogue en main, viennent proposer ce qu'ils appellent une architecture dravidienne authentique, basée sur les règles de construction agamique, etc. Donc si vous voulez, l'ancestralité réelle, au sens où ce sont les premiers arrivants qui, avec les moyens du bord, ont construit effectivement des petits temples sur les champs de canne, a pratiquement complètement disparu, au profit justement de cette espèce de reformulation rêvée sur catalogue, etc. Bon. Donc, et dernier élément, et c'est par ça que je terminerai, cette situation, en fait, qui consiste, pour les créoles, les fameux créoles, à penser leur place dans la société mauricienne, sans pouvoir faire valoir ni une contribution spécifique repérable, si vous voulez, dans l'espace, sous forme architecturale, etc. Mais en faisant valoir autre chose. Alors, assez curieusement, le discours la posture qui aujourd'hui, en fait, s'est fait jour, est une posture en termes de valorisation de la dépossession, valorisation de la perte, valorisation de la déculturation, en fait, dont les créoles ont été victimes. Donc, autrement dit, un discours... Nous avons été dépossédés de notre culture. Nous avons perdu notre culture. Et une volonté, si vous voulez, de faire de l'oubli une valeur. De l'oubli une valeur qui, justement, ouvre cette communauté comme particulièrement disponible à intégrer ce qui n'est que et entièrement mauricien, puisque, si vous voulez, aucune autre adhérence, aucune autre attache ne les empêche effectivement d'être mauriciens et seulement mauriciens. Donc, une sorte de retournement de situation qui est assez habituel dans les stratégies identitaires, qui consiste, si vous voulez, à retourner le stigmate pour effectivement faire de la perte un avantage, faire de l'oubli un avantage, et permettant peut-être aussi par ce biais-là, d'adhérer à toute la discussion transnationale autour des phénomènes de dédommagement et de réparation dont les descendants d'esclaves, effectivement, sont porteurs. Dernière question, dernier point. C'est tout, le tout dernier. Alors, comme il est question ici de vérité, les amis de l'Ourmisme m'ont souvent dit la chose suivante. Alors, lorsque Hugues parle de sa fille et nous dit c'est la vraie mauricienne, la force illocutoire en fait de sa parole a valeur de valeur de compliment. Je pense que de manière tout à fait évidente, il voulait lui adresser un compliment. J'ai le sentiment que souvent Philippe Coutinha, Joyce ont plusieurs fois dit toi t'es pas le vrai Suisse. Je me souviens je me souviens effectivement qu'en mai dernier quand j'ai rencontré Joyce, tu t'en rappelles certainement pas, Joyce m'a dit toi t'es vraiment pas le et je me suis interrogé mais qu'est-ce qu'elle veut dire exactement, est-ce un compliment? Voilà, je vous laisse réfléchir.